investissez dans la communion avec Jésus. On vient de chanter ces belles paroles d'un psaume. Un jour, une heure dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. On est compte un petit peu de ce que dans nos moments ensemble ou personnels, eh bien, nous recevons lorsque nous investissons quelques instants dans la présence du Seigneur. Ah, il nous les rend plus qu'au centuple, puisque là, il y a un rapport de 1 pour 1000. Quel investissement dans ce monde, à part frauduleux, hein, vous rapporte 1000 euros pour 1 euro investi? Moi, je cours le premier, hein, bien entendu. Et on sait souvent qu'il y a derrière des arnaques ou des choses là aussi qui sont terribles. Mais ce matin, eh bien, le Seigneur nous rappelle ce beau principe de la parole de Dieu. On va lire un texte d'introduction dans 1 Timothée 6:12. Toute parole, Paul à Timothée, une exhortation, un encouragement qui va nous conduire ce matin à découvrir, à redécouvrir, mais surtout à appliquer quelques principes de la parole de Dieu. 1 Timothée 6:12, voilà ce que Paul va dire à ce serviteur de Dieu. Alors on peut lire verset 11 pour le petit contexte. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Hein, il est question de ce que le monde peut proposer, etc., etc. Puis recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Et le verset qui va nous intéresser ce matin, c'est « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle ». Première partie du verset pour nous ce matin, « Combat, le bon combat de la foi ». Combat, le bon combat de la foi. On sait tous pratiquement ce matin, pour chacun d'entre nous, à s'engager à suivre Jésus, puis à servir Jésus n'est pas un long fleuve tranquille. On va tous passer ici, hein, et puis dire, bien oui, effectivement, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a eu ces moments dans ma vie où ça a été difficile, il y a des combats, il y a de l'opposition, bien entendu. Une image, c'est désormais, c'est comme si on marchait à contre-courant. Vous avez déjà essayé de remonter une foule dans le métro, ou alors une foule dans un magasin, vous voulez dans l'autre sens, hein? Ou alors au marché de Noël, quand c'est bondé, vous avez décidé d'aller à contre-fil, à contre-sens. C'est pas toujours évident. Hein, il y a des obstacles, il faut se séparer, il faut attendre, parfois même peut-être certains peuvent tomber, etc. Parce qu'on va dans le sens contraire. Et c'est l'image de toute façon de la conversion. Hein. La conversion, c'est carrément un demi-tour. Avant, eh bien, on marchait dos à dos avec Dieu. Voilà, on n'en voulait pas, et puis on s'éloignait. Mais le jour où on s'est converti, eh bien, on s'est retourné, on le fait face à face, et puis on avance dans sa volonté et dans sa grâce, et ainsi, eh bien, naturellement, on remonte les fils, on est à contre-courant. Et Paul définit ainsi ce combat comme étant le bon combat de la foi, le bon combat de la foi, celui qui va servir à faire avancer le royaume de Dieu dans nos cœurs, mais aussi à travers nos cœurs. Nous ne sommes plus égoïstes, centrés sur nous-mêmes, mais Dieu fait une œuvre en nous pour que cette œuvre soit manifeste, bien sûr, à travers nous. Et à travers un exemple ce matin de combat assez particulier, bien on va se rappeler justement quelques principes à appliquer pour que nous aussi, nous puissions combattre le bon combat de la foi. Peut-être dans une situation particulière, on essaiera d'être, en tout cas, d'avoir les principes généraux, mais peut-être une situation particulière. On va la découvrir ensemble dans Josué, au chapitre 10, et on va lire un verset, un récit qu'on le connaît pratiquement tous. On va lire juste les 19 premiers versets. Josué 10, verset 1, 19. Voilà ce qu'il est dit dans ce texte, dans ce combat, que Josué va devoir mener. Adonis-Sédèque, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait voué à la destruction, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il prouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adonis-Sédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachish, et à Zébi, roi d'Églon, montez vers moi, aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmut, de Lachish et d'Églon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toute leur troupe. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs. Monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. » Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et leur porta des coups jusqu'à Azeka et Makeda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azeka et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit devant Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta, la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y a pas eu du jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, Josué, et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Les cinq rois s'enfuirent, se cachèrent dans une grotte à Makeda. On annonça à Josué, les cinq rois se trouvent cachés dans une grotte à Makeda. Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte, mettez-y des hommes pour la garder. Quant à vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, attaquez par derrière, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Amen. » Donc voilà ce récit que nous connaissons peut-être, et qui est pour nous certainement marqué par cette déclaration, de Josué à un moment donné dans ce combat, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. » Jusqu'à ce que et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Et devant cette déclaration, on peut dire « Waouh ! Quelle parole ! Quelle autorité ! Quelle foi ! » Moi aussi, ce matin, je voudrais connaître peut-être dans ma vie de tels moments où, par une parole de Dieu, le combat sur ce qui cherche à me détruire cesse, prenne enfin fin, s'arrête. Moi aussi, j'aimerais vivre ce que Josué a vécu ici, dans ce moment, où, bien, au travers de ces circonstances, Dieu va se manifester. Alors, pour bien comprendre le sens de tout ce combat, il faut quand même connaître un petit peu l'histoire, le contexte. Et s'apercevoir, la première pensée, c'est que ce combat, il va commencer par l'histoire d'une tromperie, une ruse. Ce combat va commencer, c'est curieux, par l'histoire d'une tromperie. Josué et Israël vont être trompés par les Gabaonites. Hein, une expression, vous la connaissez peut-être, ils vont être roulés dans la farine. Hein, et c'était dans une farine qui était bien sèche, hein, puisqu'ils vont faire croire, on va relire rapidement le texte, mais c'est important peut-être pour bien comprendre ce que signifie parfois combattre le bon combat de la foi. Josué 9, verset 3, dit ceci, « Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales recommandées, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain, voilà, hein, farine, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal, et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné. Fais maintenant alliance avec. » Voilà la ruse. La tromperie des Gabaonites, Le texte nous apprend un peu plus tard, eh bien, qu'ils vont agir de cette manière parce qu'ils ont peur d'être aussi détruits de la même façon qu'Aï et Jéricho. Et ainsi, pour sauver leur vie, ils vont user de tromperies, de cette ruse, pour contracter une alliance de paix avec Josué et Israël. Et le piège est bien fait, hein, et le piège va se refermer, bien sûr, sur Israël. Alors, il y a deux remarques générales, peut-être, deux principes qu'on peut déjà se rappeler dans nos combats. Le premier, c'est que l'ennemi de nos âmes peut soit nous combattre de front, frontalement, ouvertement, et on sait très bien que c'est une attaque de l'adversaire, on sait très bien qu'il cherche à détruire notre foi, et c'est bien marqué, et on le sait. Ou alors, par ruse, par compromis, d'une manière insidieuse, on va dire petit à petit. On dit, je suis pas un spécialiste de la grenouille, hein, que pour faire cuire une grenouille, alors c'est peut-être un peu barbare, hein, mais si vous faites chauffer de l'eau bouillante, que vous mettez la grenouille dedans, elle va sauter. Hein, ça va réagir, bien entendu. Par contre, si vous l'installez dans une marmite à eau, j'allais dire, température ambiante, et que vous mettez le feu en dessous, eh bien, elle va se laisser avoir. Elle va tenir à petit feu. Et à un moment donné, eh bien, c'est trop tard pour la grenouille, hein, c'est pas les carottes sont cuites, c'est la grenouille est cuite. Petit à petit, tranquillement. Et c'est une manière aussi insidieuse de parfois, eh bien, nous piéger, hein, quand le combat est frontal, on appelle ça de la persécution, mais quand, comme ici, eh bien, c'est par ruse, par compris, eh bien, c'est tout aussi insidieux, hein, petit à petit, clignote un petit peu le compromis, des choses comme ça, et puis à un moment donné, eh bien, on se retrouve complètement piégé. On se retrouve complètement piégé. Et la deuxième chose, eh bien, pourquoi Israël et Josué se retrouvent dans cette situation. Josué 9,14, les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites, ils ne consultèrent pas l'Éternel. Ils ne consultèrent pas l'Éternel. Ils vont se laisser piéger par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, ils ne vont pas consulter, avoir cette bonne attitude de consulter l'Éternel. Alors pour nous, il y a ces deux, quelques versets qui nous aident lorsque nous sommes engagés dans ce genre de combat. Soyez sobres, 1 Pierre 5,8. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. La vigilance. Qui n'a jamais été trompé? Qui n'a jamais été trahi ce matin? C'est une réalité. C'est un sentiment que nous connaissons tous, à un moment donné ou à un autre de notre vie, dans notre parcours de vie. D'ailleurs, peut-être en évoquant cela, il y a parfois des noms qui peuvent remonter comme ça à notre esprit. Tel m'a trompé, une telle m'a trompé. David en parle dans le psaume 55. Je vais relire, hein, mais à un moment donné, il dit dans les versets 13 et 14 ceci. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant eux. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. David ici évoque la trahison, la tromperie de ses amis les plus proches, hein, du même rang, de la même notoriété, de la même position sociale, et qui va trahir ici David. Alors bien entendu, il existe différents niveaux de trahison, de tromperie, on est bien d'accord, hein, avec des conséquences qui sont plus ou moins graves là aussi, qui nous affectent. Quelle que soit la tromperie, la trahison qu'on a vécue, eh bien ça reste toujours des blessures. Et parfois, ces blessures mettent un certain temps, voire ont du mal ou ne cicatrisent pas. Ces blessures sont toujours comme à vie, hein, et nous font mal. En tout cas, pour Israël, conséquence, bien il est dit que, oui, ils ont engagé, contracté une alliance de paix, bien entendu, mais, ces Baonites seront néanmoins soumis à des tâches serviles. Ça va rester quand même dans le talon, on va dire, d'Israël comme une épine. Et on n'aime pas beaucoup marcher, vous le savez, avec un caillou dans la chaussure ou avec une épine dans le talon. On peut marcher, hein. On peut marcher, bien sûr, mais vous savez comment on marche, hein, quand on vit ce genre de situation. Et ce qui va arriver ici à Josué, à Israël, parce que ce combat, on va se le mettre dans la tête, il commence malgré tout par une tromperie, par une ruse. On se dit, mais si c'est une ruse, s'il y a une tromperie, comment bien, malgré tout, Josué est-il engagé dans ce combat. Bien, ce combat va se déclencher, ce qui est paradoxal, suite à un appel au secours des habitants de cette ville, qui ont trompé Israël, mais qui vont solliciter le secours et l'aide de Josué. Hein, on a lu dans Josué 10, au verset 6, « Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas nos serviteurs, monte tes serviteurs, monte vite vers nous, pour nous sauver et nous secourir, car tous ces rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Devant la conquête de Canaan par Israël, eh bien, cinq rois vont s'unir pour, bien sûr, attaquer Gabaon, une forte coalition pour empêcher, bien sûr, Josué d'avancer, de continuer son expansion. Et ils vont se liguer, bien sûr, contre Josué. Et là, ils décident d'attaquer Gabaon. Gabaon. C'est un combat ici qui est frontal. Désormais, c'est du frontal. Et face à cette menace, bien sûr, qui cherche à les détruire, les Gabaonites vont faire appel à Josué. Ces hommes qui ont trompé Josué vont faire appel à lui. Alors, il y a un principe déjà général qu'on peut retenir ce matin, c'est que le secours de Dieu est toujours accessible à quiconque le lui demande, que ce soit en direct ou à travers un croyant. Le secours de Dieu est toujours, et ça peut nous dépasser, ça peut nous dépasser. Au psaume 22, verset 12, « T'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Psaume 27, 9. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et puis le psaume 30, verset 1, et l'heure et d'autres, écoute-moi, éternel, aie pitié de moi, éternel, secours-moi. Et la question que je me suis posée, et qu'on peut se poser ce matin, comment va réagir Josué face à cet appel au secours? Je me rappelle, ils l'ont trompé, ils ont rusé, etc. Comment pouvons-nous aussi réagir face à un appel au secours d'une personne qui nous a trahis, qui nous a trompés, qui se trouve maintenant dans une situation désespérée, peut-être au péril de sa propre vie, alors qu'elle soit physique, spirituelle ou morale, peu importe. Mais comment nous, on va réagir? Peut-être tenter de dire, et on l'a déjà dit, et j'ai déjà dit, et on y va dans les arguments, c'est bien fait pour elle, pour lui. Il n'a ce qu'il mérite. On est bien d'accord. Puis on trouve, hein, la roue tourne, c'est le karma, hein, on va peut-être pas chez les chrétiens, mais bon, c'est le karma. Alors on a des versets aussi, on récolte ce que l'on sème. Qui sème le vent, récolte là, on est bien d'accord, et on y va. Et finalement, en réfléchissant, ces arguments peuvent se défendre. On est bien d'accord d'un point de vue humain, etc. Il y a, et on sait que Dieu, parfois, bien, lorsqu'on sème le vent, on récolte la tempête. Ce sont des principes, là aussi, qu'on pourrait établir. Mais dans ce cas précis, lorsque quelqu'un qui nous a trompés, qui a usé de ruse à notre égard, se retrouve dans une situation, peut-être au péril de sa vie, nous interpelle, elle demande du secours. Comment on réagit? Comment va réagir Josué? Bien parce que Josué a contracté avec Gabaon une alliance de paix, on va dire ça comme ça, il va être obligé d'aller leur porter secours. Il est lié, malgré lui, il est lié, et il va être obligé d'aller porter secours, d'engager un combat, non pas pour lui, pour Israël, pour l'instant, mais pour sauver des Gabaonites, des hommes, des femmes qui les ont trompés. Wow, Seigneur, quand même, ça va loin, ça. Ça va loin. Cette alliance le lie désormais, bien sûr, à cette ville. Et on pourrait dire, mais Seigneur, ils ont trompé quand même. Qui se débrouille? Que ces habitants assument leurs échecs, leurs erreurs, leurs tromperies, etc. Mais c'est là que je parle que Josué va mener le bon combat de la foi. Bon, on l'expliquera tout à l'heure, non pas pour lui-même pour l'instant, même si, bien sûr, il est lié, mais pour secourir pour un peuple qui l'a trompé. Qu'en est-il pour nous lorsque peut-être on se trouve dans une situation semblable, hein, où quelqu'un nous solliciterait réellement, sincèrement, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, Ben là encore, il y a quelques principes que Dieu peut nous rappeler ce matin. D'abord, rappelons-nous que Dieu utilise toutes les épreuves de la vie de ceux qui nous ont trompés, trahis, pour susciter de leur part un appel au secours. Dieu se sert de leurs épreuves, parmi les épreuves, pour susciter de la part de ceux qui nous ont trompés un appel au secours, même parfois envers nous. C'est quand même quelque chose dans le plan de Dieu qui peut-être il est dépassé. Pas moi, Seigneur, mais un autre ou une autre. Mais surtout pas moi. Je n'ai plus rien à voir avec lui ou avec elle. Alors bien sûr, il y a différents niveaux de relations. Quand la confiance a été brisée, elle ne se répare pas comme ça en 5 minutes. Dieu peut-être ne nous demandera pas d'avoir la même relation qu'avant. On est bien d'accord. Malgré tout. Alors, 2 Pierre 3:9 peut nous aider. 2 Pierre 3:9 nous dit ceci. 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers tout, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est une première pensée à se remettre dans la tête. Et puis, 1 Pierre 2:12, juste avant. 1 Pierre 2:12, vous connaissez ce passage. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, ils vous trahissent, ils vous humilient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra, le jour où Dieu va les visiter, le jour où Dieu va aussi leur montrer leur péché, leur misère. Et s'ils font appel à vous, bien qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Dieu veut nous apprendre à agir également selon l'alliance que Jésus-Christ a contractée un jour pour nous à la croix du calvaire. Il y a une alliance qui a été contractée. Et cette alliance, on l'a contractée, on l'a acceptée aussi, bien sûr, au travers de l'œuvre de la croix. Et cette alliance, même si dans certains moments ça nous dérange, parce que on se retrouve dans une situation là aussi qui est dérangeante, qui est inconnue pour nous, eh bien, cette alliance, en effet, garantit le salut à tous les trompeurs, à tous les tricheurs, à tous les pécheurs, à tous les menteurs, à tous les adultères, à tous les traîtres, à tous les meurtriers qui se repentent, qui acceptent, là aussi, l'œuvre de la croix. Et qui, dans leur détresse, parce qu'ils savent que là, il y a un péril urgent dans leur vie, alors c'est peut-être physique, c'est peut-être moral, c'est peut-être spirituel, je ne sais pas. Mais à tous ceux-là, eh bien, Dieu, là aussi, leur promet le même salut qu'à moi, qu'à vous, quand on a crié aussi à Dieu dans notre détresse. Proverbe 3:27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Job 6:14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. C'est un dérangeant, ça, hein, comme, hein. Au moins la compassion. Luc 6, 27. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Là aussi, il faut le méditer et puis l'avaler, celui-ci, hein. Puis Romains 12, 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Alors après, car en agissant, ce sont des charbons ardents que tu amènera sur sa tête. Bon, j'ai lu plusieurs commentaires, il y a plusieurs explications. Il y en a une qui m'a semblé intéressante, en tout cas. Je vous la livre. S'il manque de feu, laisse-le transporter des braises sur sa tête. Le Seigneur t'en saura gré. Dans certains pays, on n'a pas toujours des bouquets, des allumettes, hein, pour allumer le feu, etc., comme les scouts le font si bien. Mais ben, il faut aller chercher du feu chez un voisin. Et alors, bah, comment on fait pour transporter du feu parfois sur des kilomètres, etc. Non, on prend pas une petite allumette, puis comme ça, puis on se trimballe pendant 3 kilomètres, à part la flamme olympique, et ça marche pas. Alors, que font donc ces personnes? Eh bien, ils prennent un récipient, alors certainement en terre cuite, etc., hein, ils mettent des braises encore chaudes, ils les recouvrent, et puis ils les transportent sous la tête. C'est peut-être une explication, hein, où Jésus dit, bien oui, si, même si ton ennemi te demande du feu parce que c'est vital pour lui, bien voilà, tu lui en donnes, et puis il le transportera sur sa tête, et le Seigneur le verra. Le Seigneur t'en saura gré. Et là, on est véritablement dans le bon combat de la foi. lorsque nous acceptons de secourir celui qui nous a trompés. Et, de manière générale, hein, attention, mais c'est un combat de la foi. Parce que il y a toutes ces réactions en nous, bien sûr. Hein, ça va s'engager contre notre chair, contre nos préjugés, contre nos vraies blessures qu'on a vécues. Mais Seigneur, tu n'es pas au courant de ce qui m'a fait quand même, il y a 5-10 ans, de paroles qu'il m'a dites, etc. Le niveau de tromperie peut aussi être plus ou moins élevé. Ça me rappelle quand même un petit peu ce que Ananias va dire au Seigneur concernant un certain Saul de Tarse, hein, vous vous rappelez? Mais le Seigneur t'es pas au courant quand même, hein? Comme si le Seigneur t'es pas au courant. Tu sais qu'il a des lettres contre les chrétiens, qu'il a enfermé des chrétiens. Il a même du sang sur les mains. Et toi, tu veux m'envoyer vers lui? Et la réponse de Jésus, on la connaît bien, va, parce que c'est un instrument que j'ai choisi et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Il y a eu un combat de la foi là aussi dans le cœur d'Ananias à ce moment, parce que ça va à l'encontre de notre conception, de nos expériences. C'est quelque chose là aussi qui me dérange. Mais Josué va entrer dans ce combat de la foi, le bon combat de la foi. Et on termine, alors ça commence par une tromperie, ça continue là aussi par un appel au secours, puis ça se termine quand même par un combat qui devient victorieux. Enfin, le combat devient victorieux. Et s'il devient victorieux, c'est parce que Josué va appliquer ce principe général, hein, qui est pour nous le fondement. On en a parlé dernièrement avec les jeunes. Hein, je vous le rappelle, ce que Josué reçoit comme parole au début, lorsqu'il succède à Moïse, c'est Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, succès dans tes combats de la foi, succès dans tes bons combats de la foi, c'est alors que tu réussiras. On parlait de quelques définitions de la réussite, succès, hein, avec les jeunes. Je crois qu'il y en avait trois. Il y en avait un, c'était de travailler sans avoir l'air de travailler, enfin un truc comme ça, je me rappelle plus, hein. Voilà, c'était un jeune qui disait ça. Moi, pour moi, le succès, c'est gagner de l'argent sans avoir l'air de travailler. Bon, je sais pas ce que vous voulez dire, hein. Mais voilà, c'était du succès pour lui. Un autre disait ceci, pour moi, le succès, parce que en opposition certainement avec ce qu'on croit du succès, vous savez, des fois, il y a dans les entreprises, il y a la pyramide. Là en haut, il y a le gars qui est en haut, hein. Il faut qu'il marche, on a l'impression qu'il marche sur les autres pour arriver en haut. Et lui disait, ben moi, c'est d'avoir une bonne relation avec les autres, simplement, avec la nature, d'être en phase, etc. Pour lui, c'était le succès. Puis il y avait une troisième, hein, qui était intéressante aussi, trouvée intéressante, cette notion de succès, c'est d'avoir la satisfaction qu'après avoir donné des conseils, des encouragements à d'autres, bien ces personnes les ont entendus, les ont suivis, et puis ont évolué, ont grandi. Je trouve que c'est une belle définition aussi du succès. Mais la définition biblique du succès, c'est celle-ci. Du bon combat de la foi, c'est celle que Josué va appliquer de manière générale, eh bien, de militer la parole de Dieu de jour et nuit, et puis de lui être fidèle et d'agir en fonction de cette parole, c'est alors que tu auras du succès. Alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alors, comment Josué, parce qu'on est parti de cette parole, mais qui nous impressionne, qui m'impressionne aussi, moi le premier peut-être, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune sur Ajalon. » Je réponds, vous sortez du culte, et puis là, « Arrête-toi sur Saint-Louis. » Oh, hein, extraordinaire quand même. Quelle parole, on dirait, waouh, ça c'est un chrétien, hein, extraordinaire. Quelle autorité. Eh bien là encore, si on décortique un petit peu Josué 10, eh bien, on a quelques éléments qui, ce matin aussi, veulent nous aider, eh bien, à combattre le bon combat de la foi, de manière générale, ou peut-être, à un point, quelqu'un qui, dans le passé, eh bien, nous a fait les pires traces, et qu'aujourd'hui nous demande du secours, demande de l'aide. Josué, au chapitre 10, au verset 8, ben, on recommence par le commencement, puisque avant d'aller au combat, Dieu va dire à Josué, c'est au verset 8, « N'aie pas peur de ces rois, je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. » Josué, d'abord, pour être victorieux, va s'appuyer sur une parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Alors, on revient à ce principe général, mais il est bien sûr important. Verset 9, « Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Josué agit aussi en qualité de chef de guerre. Avec son autorité, avec sa position, il prend ses responsabilités d'homme de guerre ici. Et donc, il va faire sa part. Il va faire sa part dans ce combat, et on a tous notre part à faire aussi dans le combat avec Dieu. On le voit par la suite, Dieu va agir aussi de manière miraculeuse. Mais il a fallu aussi que Josué se mette en route, qu'il fasse sa part. Et là, il a une stratégie quand même, c'est payant, parce qu'il va prendre l'ennemi par surprise, marcher de nuit. Et donc, il va faire sa part, et dans nos combats, on a besoin de faire notre part. D'ailleurs, Ephésiens 6, ça nous rappelle, au moins, le minimum, c'est l'équipement du soldat. Hein, donc, bouquet de la foi, etc., vous connaissez, mais si on part comme ça au combat, les mains dans les poches, on part les lois. Et ça, c'est notre responsabilité. Et puis, la suite nous dit de la manière dont Dieu ici va se manifester, hein, puisque il y a des choses extraordinaires qui est dit, puisque il va faire tomber du ciel sur eux d'énormes grelons. Vous vous rendez compte? Et il est dit que ceux qui vont être tués par cet phénomène venant de Dieu vont être plus nombreux que ceux qui vont mourir sous le coup de l'épée de Josué. Et là, Josué en même temps, il est acteur, mais il est aussi spectateur. Il contemple la toute puissance de Dieu. Puis il se réfugie bien sûr dans ses promesses. Et puis, il est ici, Josué 10-12, et là j'aime bien, c'est certainement un point de bascule, Josué parla à l'Éternel. Moi j'aime bien, pour moi c'est un moment clé, un moment important, Josué parla à l'Éternel. C'est un point de bascule, c'est un moment stratégique. Josué c'est le général en chef, et là à un moment donné, eh bien, il lâche son commandement. Il arrête de dire, toi tu vas là, toi tu fais ci, etc. Il va prendre du temps devant Dieu. Il va parler à l'Éternel. Il va avoir un moment intense de communion avec lui. Une intimité, bien sûr, très forte, qui nous rappelle celle de Moïse. Vous vous rappelez celle de Moïse, hein, dans Exode 33, 11. Il dit ceci, c'est que l'Éternel parlait avec Moïse. Face à face, comme un homme parle à son ami. Et la suite est très intéressante dans la démarche de Josué plus tard. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, lui, Josué, fils de Noun, ne sortait pas de la tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces moments où Moïse parlait avec Dieu face à face, il y avait quelqu'un qui était là, un privilégié de l'intimité. C'était Josué. Et Josué, eh bien, on vivait cela, il entendait cela, je sais pas comment ça se passait, hein, mais en tout cas, Josué va avoir l'exemple de Moïse, de cette intimité, cette relation personnelle, et ça va le marquer. Et dans ce moment de combat intense, eh bien, Josué va parler, il va parler à l'Éternel. Moi, j'aurais été curieux de savoir qu'est-ce que Josué va dire à l'Éternel en ce moment-là, hein. Ça, on le saura là-haut. Bien sûr, mais la question se pose pour moi d'abord, et puis pour vous accessoirement, mais vous le prendrez aussi, je pense. Quel est mon degré d'intimité avec Dieu? Comment vivons-nous notre communion, notre connexion, notre relation avec Dieu? Comme vous voudrez, peu importe. Comment lui parlons-nous? Comment est-ce qu'on l'écoute? Comment est-ce qu'on l'entend? Quel est le degré d'intimité avec lui? Voilà également où se situe le bon combat de la foi. Dans le quotidien, on va dire dans l'ordinaire, dans l'habituel. Tout à l'heure, eh bien, quelqu'un a prié, Seigneur, aide-nous à ne pas nous habituer à ta présence. Et là aussi, dans ces moments, quelle est la qualité, quel est le degré de mon intimité? Josué parla à l'Éternel. C'est un véritable combat, c'est le bon combat de la foi. On est tous faits de la même matière, hein. Quand il s'agit de prendre quelques instants avec Dieu, on aurait toutes les bonnes raisons, les coups de téléphone qui sonnent, l'ordinateur, le planning, etc. Voilà. Et ici, en plein combat, un général en chef lâche son commandement, va parler à l'Éternel. Et je crois, en tout cas c'est mon intime conviction, cette parole, soleil, arrête-toi sur Gabaon et lune sur la vallée d'Ajalon, c'est pas Josué qui l'a inventé, ni tiens, ben, je vais dire ça à l'Éternel, puis on verra bien ce qu'il en pense. Je pense que dans ce combat de la foi, dans ce moment d'intimité avec lui, eh bien, Dieu a mis sur son cœur cette parole, cette réalité, parce que Josué a dû dire, Seigneur, eh bien moi, je voudrais que l'ennemi soit vaincu une bonne fois pour toutes. Je veux pas reproduire les erreurs, parce qu'il y en a eu quelques-unes, hein, auparavant. Vous le connaissez également, surtout avec Haï. Et il a dit, Seigneur, eh bien, voilà. Et Dieu a mis sur son cœur cette parole. Cette parole, il va la proclamer. Elle ne sort pas de son intelligence. C'est Dieu qui a mis sur son cœur cette parole. On pourrait dire que cette parole, c'est la face visible de l'iceberg, vous savez, hein, 10% à ce qui paraît. Il y a 90% en dessous, et les 90%, eh bien, cette parole, elle est suscitée par les 90% de l'intimité que Josué a avec l'Éternel à ce moment-là. C'est ça qui va susciter cette parole. Face à un appel au secours, peut-être ce matin, qui me dérange quelque part, qui me bouscule pour toutes sortes de raisons, eh bien, comme Josué, on peut en parler à Dieu. Je dis, Seigneur, ça me dérange, cet appel au secours. Cette personne, ou qui voudrait ceci ou cela, parce qu'elle m'a trompé, parce qu'elle m'a humilié, Seigneur, mais est-ce qu'elle est sincère? On a le droit de parler avec Dieu de tout ça. C'est le combat de la foi. Jusqu'où cette personne, eh bien, veut-elle aller? Jusqu'où est-ce que tu veux que j'aille? Je le répète, en fonction de la tromperie, il y a parfois aussi des limites dans la confiance, dans la relation qu'on va établir à nouveau avec cette personne. Dieu me demande pas nécessairement de revivre ce que j'ai vécu avec elle ou avec lui avant cette tromperie, pas du tout. Mais il y a peut-être aussi, eh bien, des choses là aussi à vivre, à réaliser dans ce combat de la foi. Oui, dans ce combat qui est dérangeant. Seigneur, tu vois, cette personne, montre-moi comment la secourir. Où je peux la secourir, si après il faut passer le relais à quelqu'un d'autre, etc. Mais tout cela, Seigneur, je vais le faire pour son salut, pour sa délivrance, pour son secours. Révèle-moi ta volonté, révèle-moi ta pensée, ton plan d'action, pour que je sois moi aussi victorieux dans ce bon combat de la foi. Parce que ça me dérange, parce que je suis déstabilisé, parce que j'ai pas envie, parce que je ne veux pas. Seigneur, montre-moi, je suis à ta disposition. Et Josué 13, verset 14, dit également où Dieu va manifester sa toute-puissance, sa souveraineté, son autorité. Alors c'est un miracle, hein. Je n'ai pas encore l'explication. Hein. Comment là aussi, eh bien le jour se prolonge, sachant, vous avez tous vécu ça sur à l'école primaire, je crois, avec, vous savez, le soleil, enfin la terre qui tourne autour du soleil et la lune qui tourne autour de la terre, d'accord? Les jours, c'est la rotation de la Terre sur elle-même, 24 heures à peu près. Comment ça se passe? Moi, très scientifique, bien, Dieu arrête la rotation de la Terre. C'est bien, hein. Sauf que là, il y a un problème de gravité. Bon. Et on n'existe pas, voilà. Et puis encore, il y a le coup de la Lune. Parce que la Lune, elle continue à tourner autour de la Terre. Alors si la Terre s'arrête, où elle... Bon, c'est un miracle. C'est un miracle, on est bien... Il y a aussi Ézéchias, vous savez, à un moment donné. Hein, on dit que... C'est une histoire que j'ai entendue quand j'étais jeune converti. Je ne sais pas si vous l'avez entendue, celle-là. Quand les astrophysiciens ont voulu envoyer des satellites autour de la Terre, il a fallu des calculs très précis de la trajectoire, avec le temps, etc. Et à ce qu'il paraît, quand ils ont commencé à faire ces calculs, il leur manquait toujours environ 24 heures. Ah, ils arrachaient les cheveux, ils reprenaient leurs calculettes, etc. Ils mettaient des piles dans leurs engins, rien n'y faisait. Et là, il y aurait eu un chrétien qui a dit, mais moi j'ai des solutions, je sais ce qui s'est passé. Et il leur a montré ce passage de Josué et d'Ézéchias, où effectivement, dans l'espace-temps, il manque environ une journée. J'ai jamais pu vérifier cette histoire, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, mais ce serait quand même une belle histoire. Non, hein, voilà. En tout cas, on referme la parenthèse, et puis on arrive aussi, une dernière pensée, c'est aussi un signe pour les Gabaonites. C'était aussi un signe pour tous ces rois impies et leurs soldats et leurs peuplades qui adorent la lune, qui adorent le soleil. C'est de dire, eh bien, il n'y a qu'un seul dieu. C'est pas le dieu soleil, c'est pas le dieu lune, il n'y en a qu'un seul, c'est le dieu de l'univers qui maîtrise tout. Et c'est un signe terrible aussi pour eux qui voient bien ce soleil qu'ils adorent, cette lune qui est figée. Et Dieu est le maître du temps, Dieu est le maître des idoles, etc. On le sait, ces idoles qui n'ont ni oreille pour entendre, ni bouche pour parler, etc., etc. Et c'est un signe de la puissance et de l'autorité de Dieu. Pour nous, ce matin, Proverbe 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je ne dis pas maintenant vous allez arriver au travail demain parce que quelqu'un vous a trompé. Et vous allez dire, non, attention, hein, le soleil arrête pas sur lui, etc. Non, non. Peut-être que Dieu fera d'une autre manière. D'une autre manière, certainement. Mais il le fera. Il le fera. Si nous aussi, nous savons, comme Josué, combattre le bon combat de la foi. Alors je termine. Combattre le bon combat de la foi, c'est par définition un moment dans ma vie où bien naturellement, humainement, raisonnablement, intellectuellement, je ne vais pas m'y engager. Autrement, ce n'est pas le bon combat de la foi. Le combat de la foi, au contraire, eh bien, c'est un moment où, comme Josué, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu, je vais engager un dialogue avec Dieu, je vais l'interpeller, je vais même lui dire peut-être, là, ça me dérange, Seigneur, je ne suis pas d'accord, c'est quelque chose qui m'est insupportable, que je ne peux pas faire. Ça, c'est le combat de la foi. Et c'est là où Dieu va me travailler dans son intimité. Et c'est là où Dieu va me dire, bien voilà ce que je te propose, voilà ce que je veux pour toi. Tu vas aller jusque-là, à ce niveau, pour que tu courir cette paix. Oui, elle t'a trompé. Oui, elle t'a humilié. Oui, elle t'a critiqué. Oui, elle t'a calomnié. Mais je veux me servir quand même de toi. Jusqu'à un certain niveau. Je le répète, c'est important. Mais je vais quand même t'utiliser pour que là aussi, dans ce domaine, tu sois victorieux. Que tu sois vainqueur. Alors face peut-être à une personne ce matin ou un événement, je ne sais pas, eh bien, commencez déjà par la prière. Ça n'engage pas grand-chose si ce n'est déjà d'avoir un contact avec Dieu. Seigneur, ok, tu me demandes deux, mais je vais commencer par prier. Peut-être que dans ce temps de prière, eh bien, Dieu va me glisser quelques mots sur le pardon, sur l'amertume que j'ai nourrie, etc. Peut-être que là aussi, ça va réagir, ça va me déstabiliser. Peut-être que Dieu m'arrêtera là, dire, ok, tu as pardonné, c'est bien, c'est tout ce que je voulais entendre de ta part. Peut-être que Dieu me dit, écoute, ben, fais un pas de plus, réponds à son besoin, là aussi, jusqu'à ce niveau. Mais en tout cas, rappelons-nous ce principe, hein, de Josué 1:8, et on va terminer par là, concernant, bien, ce bon combat de la foi qui est pour moi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Sans tordre les Écritures, c'est alors que tu combattras le bon combat de la foi. Alors, combattras le bon combat de la foi. Amen. Seigneur, nous voulons ce matin prendre ta parole avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup de solennité aussi, non pas dans le sens religieux du terme, mais dans le sens, Seigneur, preuve de ton amour, de ta grâce, de ta bonté. Seigneur, tu as agi de cette manière envers nous, et ce matin, nous te demandons, je te prie pour moi-même, pour mes frères et sœurs, de nous aider à combattre le bon combat de la foi. Il y a des combats de notre chair qui sont inutiles, qui sont vains, qui nous font mal. Te prions, Seigneur, de nous aider à ne pas nous y engager. On va en choquer, on va prendre des forces. Mais par contre, dans ces bons combats de la foi, Seigneur, nous voulons simplement nous y engager. Je prie peut-être pour des bien-aimés qui certains sont interpellés. Seigneur, aide-les, comme Josué, à te faire confiance, à parler à l'Éternel, dans une intimité renouvelée, dans une intimité forte et profonde, pour que dans ces moments précieux entre toi et eux, eh bien, ils puissent recevoir de ta part ce que tu veux vivre et agir. Merci, Seigneur. En tout cas, tu as fait des promesses, et ce matin, nous voulons les saisir. Oui, rends-nous victorieux, Seigneur, sur nous-mêmes, dans ce combat parfois personnel que nous avons avec nous-mêmes, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ton secours. Oui, nous voulons confesser encore ce matin que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Et nous prions ce matin pour tous ceux qui nous ont trompés, pour tous ceux qui nous ont humiliés, tous ceux qui nous font du mal, tous ceux peut-être qui continuent à nous calomnier. Nous prions pour que ta grâce leur soit communiquée, pour qu'eux aussi puissent se repentir et revenir à toi, ou venir à toi, et plaise à Dieu, si c'est ta volonté, que ce soit également au travers d'un secours que nous pourrons leur apporter dans le nom de Jésus. Amen. Amen.